France Guimard-Roche est heureuse de vous retrouver, chers auditeurs, dans l'écho de ma commune. Dans cette émission qui est sponsorisée par le Conseil Général d'Eure-et-Loire, je reçois Monsieur Olivier Marleix, député d'Eure-et-Loire. Bonjour Monsieur le député, c'est gentil de venir nous voir à nouveau. On est très heureux en tout cas. Et donc, nous allons aborder aujourd'hui un autre volet de votre vie qui est votre mandat de député. C'est quoi être député, Monsieur Marleix ?
Le député, il est élu par ses concitoyens pour les représenter à l'Assemblée nationale avec une double mission qui est d'une part voter la loi, ou ne pas la voter d'ailleurs de temps en temps. D'ailleurs, je dois reconnaître que ces derniers temps, je n'ai pas voté beaucoup.
Qu'est-ce qui se passe en cas de 49-3 ? On est fastidieux,
en cas de 49-3, le député ne vote pas en fait, non plus à voter. Le gouvernement dit c'est à prendre ou à laisser. Si vous n'êtes pas content, vous votez une motion de censure, éventuellement vous taisez. D'ailleurs, moi je suis peut-être horrifié certains, mais je suis plutôt pour l'usage favorable à l'usage du 49-3.
Ça permet de sortir d'impasse.
Ça permet de sortir d'une crise, voilà. Et en fait, là où à gauche d'ailleurs ce débat est un peu tronqué, c'est-à-dire qu'en fait le problème c'est que les gens ne sont pas allés jusqu'au bout. Tous ceux qui ont dénoncé à gauche l'usage du 49-3 en fait n'ont pas fait preuve du courage qu'ils auraient dû faire preuve et de la volonté qu'ils auraient dû faire preuve jusqu'au bout, parce que le 49-3, c'est le gouvernement qui dit bah, écoutez, vous ne voulez pas voter ce texte, très bien, moi je vous dis une chose, j'engage devant vous ma responsabilité. Donc soit vous ne faites rien et le texte on considère qu'il est passé, sinon vous avez le droit de voter une motion de censure et là je m'en vais,
le gouvernement tombe en minorité.
Et donc les opposants au gouvernement Valls qui reprochent à M. Valls d'avoir utilisé la motion de censure de 49-3, c'est eux qui pour moi ne sont pas allés jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire que c'est à eux de déposer une motion de censure. Peut-être qu'elle aurait été votée par la droite, assez probablement d'ailleurs, et dans ce cas-là, le gouvernement serait tombé. Donc l'incohérence, ce n'est pas celui de Manuel Valls, c'est celui de ses frondeurs. On ne fait pas qu'utiliser le 49-3 tous les jours, heureusement, parce que ça réduit quand même un petit peu le débat politique.
On vote et la loi. Et le rôle du député.
On vote la loi ou on ne la vote pas, on peut voter contre. Et puis, autre aspect des choses, évidemment, le contrôle de l'action du gouvernement. C'est quelque chose auquel on ne pense pas suffisamment, mais le député, c'est aussi celui qui contrôle l'action du gouvernement. Il la contrôle de manière un peu théorique parfois, à travers des commissions d'enquête, etc. J'ai eu la chance de participer à une commission d'enquête tout à fait passionnante sur ce qu'a fait le gouvernement après Charlie Hebdo, entre Charlie Hebdo et le Bataclan, enfin ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait.
Là, et nous puis, allons y aussi, revenir, parce que c'est très important.
Et c'est aussi le contrôle de l'action du gouvernement sur le terrain, au jour le jour. Est-ce que l'administration, est-ce que le gouvernement administre bien le pays ? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements ? Et là, le député, il a vraiment un rôle de proximité, c'est-à-dire que c'est celui, quand un usager notamment se retrouve face parfois à ce qu'il ressent comme étant un mur de l'administration. Le député, c'est celui qui peut taper plus haut à la porte du gouvernement pour dire « Attention, là, votre administration n'a pas bien géré tel ou tel dossier, il faut regarder ça autrement, il faut regarder ça de plus près. » Donc on a un rôle qui est aussi extrêmement concret.
Donc on peut dire, c'est un petit peu la même chose qu'aux États-Unis. En fait, le Sénat et l'Assemblée nationale contrebalancent l'autorité et les pleins pouvoirs du gouvernement. Est-ce que dans ce cas, M. Trump est lui aussi contrebalancé par l'action du Sénat et de la Chambre des représentants aux États-Unis ?
Oui, alors à ceci près, comme en France d'ailleurs, c'est qu'il aura la majorité dans les deux chambres. Donc je ne suis pas sûr que ça contrebalancera autant que ça. Encore qu'on a vu qu'effectivement, les représentants n'étaient pas forcément exactement dans sa ligne politique lors de leur primaire.
Même dans son propre parti.
Dans son propre parti, bien sûr, bien sûr. Contesté. Et donc ça a été notamment avec le leader des Républicains au Congrès. Ça a été très disputé. Il avait même laissé entendre qu'il ne voterait pas forcément pour Trump. Finalement, il s'est rallié. Donc, il y aura ce jeu d'équilibre. Et il existe. Il existe, bien sûr, aussi en France.
Donc, la démocratie fonctionne.
Oui, je sais que c'est très à la mode de dire que la démocratie ne fonctionne pas. Je pense que c'est malheureusement, ça fait partie de ces idées un peu trop véhiculées. La démocratie, elle fonctionne. En tout cas, à Dreux, il y a un député, il a une permanence, n'importe qui peut venir le voir. Je relais
Il vient à la
automatiquement.
radio quand on le
Je
lui demande, il n'y a pas de problème.
relaie du mieux possible. J'ai des adversaires qui défendent d'autres points de vue. Voilà, c'est la démocratie, elle est plus ouverte qu'on le dit. Ça fait partie des sujets un peu dans l'air du temps. Au bout du compte, je crois que au bout du compte, aujourd'hui, l'idée à la mode, c'est qu'il faudrait tirer au sort les élus. Je crois que c'est la nouvelle lubie qu'on entend. Mais on l'entend beaucoup dans les médias, pas chez vous, à Radio Grand Ciel, mais on l'entend beaucoup. Hein. J'ai pas beaucoup d'intérêt pour ce que fait un jeune réalisateur drouet qui est excellent en tant que réalisateur. Je suis moins fan des idées qu'il véhicule, qui est Cyril Dion. Cyril Dion, dans son petit film Demain, explique que l'avenir de la représentation, c'est le tirage au sort, que finalement, ça marche pas plus mal. C'est comme ça que c'est rendu la justice dans les jurés d'assises.
Mais
Moi,
enfin, c'est
je pense que c'est
le
une.
terme ça ne marche pas plus mal, ça veut pas dire que ça marche mieux.
Je pense que non. Et puis je pense que vraiment que c'est une vue de l'esprit, parce que pour être un contre-pouvoir à la fois à un gouvernement, mais aussi, j'ai pas le peur de le dire, puisque Cyril Dion, par exemple, dénonce le rôle de certaines multinationales, etc. Pour être un contre-pouvoir multinational, vaut mieux un tout petit peu de connaissance des dossiers, un tout petit peu d'ancienneté. Et malheureusement, on n'a pas trouvé d'autre système que celui du fait que des gens se spécialisent à un moment sur des sujets et fassent de l'engagement public leur métier pendant un certain temps.
Et puis de toute façon, c'est une légitimité que d'être élu par le peuple.
Oui, et le peuple a montré partout d'ailleurs qu'il était capable de changer, de désigner des représentants très différents d'une élection à l'autre. Hein. Même ici sur Dreux, on en a fait l'expérience, qu'on a été le premier département, la première circonscription en France à même élire une députée au suffrage universel majoritaire du Front National. Donc on a fait cette expérience. Ça a montré que la démocratie, elle fonctionne dans tous les sens, pour le meilleur et pour le pire.
Parmi toutes vos actions, s'il faut en mettre quelques-unes en exergue, vous choisissez lesquelles?
Oui, c'est un vaste sujet. Bon, le travail
On
du
peut commencer par la sécurité.
Oui, moi je me suis beaucoup investi au sein de la commission des lois sur les questions de sécurité. J'ai notamment été membre de la commission d'enquête, on évoquait, présidée par Georges Fenech, sur justement le contrôle de ce qu'a fait le gouvernement face à l'épisode terroriste d'une gravité sans précédent qu'a connu la France. Une gravité sans précédent, c'est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas connu un tel nombre de morts, près de 300 morts sur notre territoire par des attentats terroristes. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que tout n'a pas été fait après Charlie Hebdo pour assurer la sécurité des Français. Il y a eu une grande part de bluff de la part du gouvernement. Entre Charlie et le Bataclan, Charlie Hebdo, c'est le 11 janvier, le Bataclan, c'est le 13 novembre, et c'est quasiment passé un an. Et en réalité, le renseignement a continué totalement à dysfonctionner dans ce pays.
Pour en arriver à Nice.
Oui, pour finir en plus, effectivement, après le Bataclan aussi, évidemment, Nice, qu'on n'oublie pas, et puis d'autres drames, Magnanville, tout près de chez nous, hein, avec un jeune couple de policiers sauvagement assassinés. Enfin, donc malheureusement, et puis un chef d'entreprise dans l'Isère, etc. Donc dysfonctionnement total du renseignement. Alors, le
Mais est-ce que
gouvernement.
ça n'est pas le fait qu'il n'y ait plus de renseignements généraux?
Alors, ça, c'est le grand argument de l'actuel gouvernement. En fait, il y a toujours des renseignements généraux qui s'appellent plus renseignements généraux, qui s'appellent renseignements territoriaux. Le vrai problème, c'est pas. Alors, le gouvernement dit oui, sous Sarkozy, on a supprimé les RG. Donc, non, il y a un renseignement territorial qui rend compte à la DGPN, en fait, qui appartient, ce renseignement territorial, à la Direction générale de la Police nationale. Pour moi, la vraie césure et le vrai problème de fond, c'est la réforme du renseignement de Manuel Valls qu'il a créée, parce que Manuel Valls a sorti le renseignement, notamment pour lutter contre le terrorisme, de la DGPN. Et en clair, il a créé une direction générale, la DGSI, de la sécurité
Extérieur.
intérieure, enfin, voilà, qui est extérieure à la DGPN. Et donc là, on a une vraie césure désormais entre la DGSI qui s'occupe, on va dire, du haut du spectre, hein, très attentive terrorisme d'intrusion étrangère notamment, ou aux signaux les plus visibles, les gens les plus identifiés. Et puis on a ce renseignement territorial qui fait le travail de fond avec les moyens qu'il a, qui en général sont pas formidables, qui lui est sous la coupe de la direction de la sécurité publique, donc de la DGPN, donc d'une autre direction. Ça, c'est une réforme totalement invraisemblable qui a été faite par Manuel Valls, mais comme c'est l'actuel gouvernement, c'était tellement plus facile de répéter à l'envi que c'est parce qu'on avait supprimer les RG, que ça ne marchait plus. Non, les RG, ils existent toujours. C'est le renseignement territorial. Le problème, c'est qu'ils ne sont plus, ils ne sont pas en ligne directe avec la nouvelle direction générale de la sécurité intérieure. C'est un sujet dont on a assez peu parlé dans la commission d'enquête. Je vous assure qu'on l'a évoqué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout ça est tellement aberrant que c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui est obligé de faire, une fois par mois environ, une réunion dans laquelle il fait venir le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité intérieure. Sinon, il n'y a plus de coordination qui se fait. Ça montre à quel point on a une petite difficulté. On a eu un coordinateur national du renseignement, Monsieur Lebret, qui n'a sans doute pas non plus brillé par son efficacité. Il est aujourd'hui candidat aux élections législatives. Je trouve ça un petit peu, je crois, pour le Maghreb. Bon, moi, sincèrement, il ne nous a pas fait une très forte impression en termes de sa capacité à coordonner les choses pendant toutes ces années.
J'avais connu, il y a quelques années, même assez anciennes, des gens des RG qui me paraissaient extrêmement impliqués sur le terrain, mais alors avec un travail de proximité incroyable. Ils interviewaient beaucoup de gens, en fait, pour savoir ce qu'ils pensaient.
Ça aussi, c'est plus que savoir important. Ce qu'ils pensaient, savoir ce qui se passait, savoir ce qui se passe. Oui, oui, malheureusement, c'est un travail difficile. Il faudrait, dans certains territoires, il faudrait des moyens très importants et ils ne les ont pas toujours. Oui, ça renvoie à l'autre sujet, qui est la question des moyens. Moi, j'ai mis en évidence, en tant que député, j'ai été très attentif chaque année aux chiffres que nous communiquait le gouvernement sur les effectifs de police et de gendarmerie. Parce que depuis le début, je suspectais qu'il y ait une grande part de bluff et en tout cas un grand décalage entre ce qui était annoncé sur les effectifs de police et de gendarmerie et la réalité.
Il ne faudrait pas non plus que les gendarmes ou les policiers soient pris par des travaux de secrétariat.
Oui, c'est un autre sujet, vous avez entièrement raison. Mais globalement, moi je pense que, je n'ai pas hésité à le dénoncer publiquement, il y a eu un vrai bluff du gouvernement. Le président de la République lui-même, au congrès à Versailles, après le Bataclan, nous expliquait qu'ils avaient déjà créé 5000 postes, qu'ils allaient en créer 5000 autres, qu'au total, il y avait 10 000 postes qui avaient été créés par le gouvernement. Moi, ce que je sais, c'est qu'en épluchant les documents budgétaires remis par le gouvernement, par M. Cazeneuve quand il était ministre de l'Intérieur notamment, entre 2012 et 2015, fin 2015, puisque c'est la dernière année pour laquelle nous avons des chiffres certifiés par le gouvernement lui-même, il n'y a pas eu 10 000 postes de créés, il y en a eu à peine 350 au total, police et gendarmerie. Donc on a été dans une mystification totale, un vrai mensonge.
Très insuffisant.
Un vrai mensonge d'État, en tout cas. Voilà, et je doute fort qu'entre 2016 et 2017, on arrive à récupérer le retard et créer les 9 000 et quelques postes qui manquaient. Là aussi, on a vraiment été dans la com. Je crois qu'il y a eu un manque de sincérité totale. Alors après, est-ce que la réponse, elle est uniquement dans l'effectif des forces de l'ordre? Moi, je crois pas. Je crois qu'effectivement, il faut stabiliser, mais globalement, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a environ police et gendarmerie, on est à plus de 200 000 hommes, donc c'est quelque chose de tout à fait considérable. Il faut effectivement essayer de sanctuariser sans doute les moyens du ministère de l'Intérieur. Il faut mieux coordonner, mieux solliciter les polices municipales, c'est pas rien, c'est plus de 20 000 hommes, donc si on a besoin de moyens...
Les armées.
Aujourd'hui, il faut savoir par exemple que la police municipale n'a pas le droit de faire des contrôles d'identité. Vous allez au supermarché du coin, on peut, mais j'ai défendu moi-même dans le premier texte, la première loi sur l'état d'urgence, le fait que pendant l'état d'urgence au moins, on puisse autoriser les polices municipales à faire des contrôles d'identité, on nous a répondu non. Voilà.
Vous êtes pour la prolongation de l'état d'urgence.
Si on veut, maintenant il faut arrêter un peu la plaisanterie, parce que en clair, on l'a prolongé 5 fois l'état d'urgence, ça fait plus de 420 jours que nous sommes en état d'urgence. Donc si on a besoin de prolonger un état d'exception, c'est qu'en réalité, on considère que l'exception devrait devenir la règle et qu'il faut faire évoluer notre droit, il faut avoir le courage de faire évoluer notre droit sur un certain nombre de choses, notamment la possibilité pour les forces de l'ordre de fouiller des véhicules sans avoir forcément une réquisition du parquet. C'est ce qui se passe en état d'urgence. Je pense que ce serait pas mal de pouvoir le faire de manière un peu plus systématique. Donc,
il a été très utile tout de même cet état d'urgence.
Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, il a été utile les premières semaines. L'histoire montre que même les premiers jours, que en réalité l'histoire est un petit peu plus compliquée que ça. Et puis il y a derrière, il y a un sujet dont on parle assez peu. Donc moi, je pense que un des grands sujets, c'est comme les moyens dont doivent disposer les forces de l'ordre sur les moyens technologiques. On peut leur donner infiniment plus d'efficacité. Mais surtout, la question, vous aurez beau rajouter tous les effectifs que vous voudrez de forces de l'ordre, si derrière la justice ne suit pas, voir si la justice applique, comme ça a été le cas pendant ce quinquennat, des consignes d'une sorte de laxisme assumé, hein, comme ce fut le cas avec Mme Taubira, bah évidemment, malheureusement, le travail des forces de l'ordre s'épuise, puisque derrière, il ne se passe rien. J'ai posé une question à M. Leroux, le nouveau ministre de l'Intérieur, la semaine dernière, sur des bandes de casseurs à Juvisy, pour demander quelles avaient été les suites. Il m'a répondu, avec un ton qui se voulait rassurant, selon le triptyque suivant, ils ont été arrêtés, ils ont été déférés, ils ont été relâchés. Voilà. Donc c'est extrêmement rassurant. Ils ont été arrêtés, ils ont été déférés, ils ont été relâchés. Voilà. Bon.
Et puis il y a aussi la directive européenne sur le temps de travail des emplois des gendarmes et des policiers.
Oui, c'est un sujet sur lequel je me suis effectivement élevé. On est en plein état d'urgence et on laisse la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire quelques juges, vraiment quelques personnes, avoir une interprétation du droit européen qui est contraire à ce qui est écrit dans la directive européenne. C'est totalement incroyable.
Et quels sont les recours possibles ?
Eh ben, c'est la question que j'ai posée au gouvernement. Visiblement, pas grand-chose. Il faut effectivement, au minimum, renégocier cette directive pour qu'elle ne s'applique pas comme c'est écrit aux forces de l'ordre. Je parlais de l'action de la justice, c'est quand même très important. Il faut savoir quand même que ce gouvernement a abrogé les peines planchers pour les récidivistes. On sait très bien que sur la question des trafics de drogue, on avait besoin de ces peines planchers parce que la première condamnation, c'est souvent du sursis. Si derrière, vous n'avez pas une condamnation un peu automatique à une peine de prison ferme, eh bien le sursis, évidemment, il n'est jamais dissuasif.
Mais alors, si les récidivistes, de toute façon, ne sont pas à nouveau sanctionnés automatiquement, ça veut dire qu'ils se refont une virginité vis-à-vis de la justice à chaque fois.
Oui, bah vous avez eu des scandales bien connus, notamment devant les juges pour tribunaux pour mineurs, où le même délinquant pouvait être présenté jusqu'à 16 ou 17 fois au juge. Cette situation est tout à fait aberrante et ce gouvernement a abrogé à la fois les tribunaux correctionnels pour mineurs qu'avait créé Nicolas Sarkozy, qui s'appliquait aux jeunes entre 16 et 18 ans, et a abrogé également ces peines planchées. Mais bon, cette politique pénale, elle est extrêmement inquiétante. Je vais vous en donner un exemple sur lequel j'avais alerté. Après Charlie Hebdo, on a commencé à faire attention aux djihadistes de retour de Syrie. J'ai interrogé Charlie, c'était en janvier. Au mois de mars, j'interroge Madame Taubira, ministre de la Justice, en lui disant, mais attendez, ces gens qui reviennent du djihad, qu'est-ce que vous allez en faire ? Elle me dit, non, pas de problème, notre arsenal est parfait, etc.
En réalité, quel arsenal ? Ces gens, vous pouvez nous dire alors, de bien, quoi ils disposent ?
Les circulaires de Madame Taubira, c'était, les gens qui reviennent du djihad, vous les poursuivez au titre de l'association de malfaiteurs en vue d'entreprise terroriste, mais de nature délictuelle. C'est-à-dire qu'en clair, ils sont communément condamnés au mieux à 1 ou 2 ans de prison avec sursis. Ils sont considérés comme des délinquants, des simples délinquants. C'est-à-dire qu'ils sont considérés à l'instar d'un conducteur qui a fait un excès de vitesse de plus de 50 km/h sur autoroute, hein, qui est à 180 au lieu de 130. C'est un délinquant. Eh bien, le type qui est parti faire le djihad parce que ça le faisait rêver de voir égorger des gens et de pouvoir participer à cette aventure, il est considéré de la même façon. Donc, c'est tout à fait scandaleux. Eh bien, Madame Taubira n'a surtout pas voulu déroger de cette application. Et il aura fallu attendre, il y a quelques mois seulement, son remplacement par M. Urvoas, qui est un tout petit peu plus les pieds sur terre quand même, pour qu'il y ait de nouvelles instructions qui soient données au parquet national antiterroriste et que désormais les djihadistes de retour de Syrie soient poursuivis comme au nom de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste de nature criminelle, c'est-à-dire que par principe, on considère qu'ils ont une intention criminelle et que donc ils seront jugés par une cour d'assises spéciale antiterroriste et ils risqueront 20 ans de prison.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de djihadistes qui sont sur le point de revenir dans notre pays ?
Alors, il y en avait 1200 partis, un certain nombre sont morts, on dit qu'il y en a encore à peu près 700, qu'il y en aurait 200 quelques qui seraient rentrés, qu'il en reste encore environ 400 sans doute dans la nature, un peu plus.
Donc on sait qu'il y en a 200 qui sont rentrés, est-ce qu'on les suit ? Est-ce qu'on
sait ? Désormais, normalement, ils sont en détention provisoire. puisqu'ils tous leurs dossiers ont été requalifiés, notamment sur la pression qu'on a mise, ont été requalifiés au titre de l'AMT criminel, ce qui permet une détention provisoire d'un an, alors que quand on les considérait avec Mme Taubira comme des simples délinquants, on ne pouvait les retenir en détention provisoire que quelques mois. Désormais, on peut les retenir au moins un an avant jugement, et le jugement, c'est jusqu'à 20 ans de réclusion. Donc les choses ont un peu changé. Mais vous imaginez ce qu'il y a de terrible, c'est que Mme Taubira n'est partie qu'il y a un an, la guerre en Syrie, elle a commencé il y a 4 ans, donc depuis 3 ans, que de temps perdu.
Vous êtes élevé également contre les prédications subversives. Et vous avez fait 5 interventions à ce sujet.
Ah oui, ben je crois qu'on est quand même encore devant nous. C'est à la veille d'autres difficultés. Enfin, en tout cas, on a devant nous un grand sujet. Ces djihadistes ne sont pas partis par hasard. Ils sont partis parce qu'ils se sont fourvoyés sur des formes totalement radicales, délirantes de l'islam. On est vraiment dans des choses totalement délirantes, qui sont des formes de conversion, qui sont ces formes dévoyées de l'islam qui se passent notamment très souvent par Internet. Mais il n'y a pas que ça. Donc je crois que très clairement...
Et on a des poids sur les médias d'Internet, en fait.
Non, évidemment, c'est la difficulté. C'est que la police d'Internet est impossible à assurer. Dès lors qu'on est sur des sites qui émettent depuis l'étranger, etc., on ne sait
Alors,
pas,
que penser
on,
de,
on ne sait
des...
pas gérer ça.
Est-ce que des gens comme Google ou Facebook ou Instagram ou hébergent des sites
pour
idées ?
Oui, non, bien sûr, il y a la pénalisation, il y a un certain nombre de choses qui ont été votées là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On aura toujours beaucoup de mal à contrôler ce qui se passe sur Internet. Les difficultés que la Chine a pour contrôler, on ne peut pas contrôler un peu Internet. C'est un monde totalement mouvant, donc c'est très difficile. En revanche, c'est vrai qu'on est devant un immense chantier pour amener à une organisation de l'islam de France qui sache en son sein, avec une autorité qui lui soit reconnue, faire elle-même la police en son sein, quoi. Donc ça, c'est un immense chantier. C'est des sujets très très sensibles, très très compliqués. C'est un sujet nouveau, hein. La relation entre l'État et l'Église catholique, elle a pris plus de 2 siècles pour se stabiliser. Bon, on semble y être parvenu, mais c'est encore des sujets qui d'ailleurs sont, souvenez-vous, des manifestations pour la défense de l'école libre en 1983, mais donc c'était encore un sujet tout à fait passionnel. Mais il aura fallu, au bout de 200 ans, les choses sont à peine apaisées, à peine pacifiées. Là, on a affaire à un sujet encore plus compliqué, puisque, je vais prendre cette phrase de Tarek Koubrou, vous savez, qui est le fameux imam de Bordeaux, bon, que je ne connais pas intimement, hein, mais c'est un personnage qui semble avoir le mérite quand même de réfléchir à l'évolution de ce que doit être l'islam dans notre pays. Il vient de très loin, parce qu'il vient de chez les frères musulmans, et il termine visiblement de manière un peu plus apaisée au terme d'un parcours, et il a cette phrase qui est quand même assez intéressante. Il dit finalement, la question de l'islam en France, c'est la plus compliquée, parce que c'est la religion qui a le moins fait dans son histoire, partout dans le monde, l'épreuve de la laïcité, dans le pays qui est le plus laïcisé. Voilà. C'est vrai qu'on est le pays le plus laïcisé, qui a le plus poussé loin cette réflexion, à la différence de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, où le chef de l'État est chef de l'Église, hein, en Grande-Bretagne.
Et même les États-Unis, où le président
même aux États-Unis,
prête serment
on jure sur la Bible.
Donc,
etc. Nous, on est vraiment le pays qui a le plus fait l'épreuve de l'expérience de la laïcité, qui a le plus théorisé. Et l'islam c'est un simple constat de le faire, a fait assez peu aujourd'hui cette expérience de la laïcité, puisque elle ne l'a fait très concrètement que dans la Turquie d'Atatürk dans les années 20, mais qui était une position très radicale de laïcisation, très très brutale par Atatürk, qui a aboli d'ailleurs le califat. Et finalement, il y a assez peu d'autres expériences. Donc, on a quelque chose à construire de tout à fait nouveau. C'est un très long chantier. Et je pense que ça devrait être un sujet central du prochain quinquennat.
Et vous parlez de la Turquie. Est-ce que la Turquie d'Atatürk n'était pas finalement plus laïque et plus démocratique que celle de Monsieur Erdogan?
Ah, je ne sais pas si elle est plus démocratique ou pas. Je ne me permettrai pas de juger. En tout cas, elle était infiniment plus laïque, évidemment. C'est Erdogan qui se veut le nouvel Atatürk, en réalité, a tourné le dos aux fondamentaux de la Turquie kémaliste.
Monsieur le député, j'aurai le très grand plaisir de vous recevoir à nouveau pour une autre émission de l'Écho de ma commune, enregistrée par Roland Richard et réalisée par Émilie Glory dans les studios du ROCAS de Radio Grand Ciel.
Thank you.